Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Court-circuit. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne qui représente donc la ferme La Guec L'Étang. Bonjour Fabienne, comment
Bonjour.
Ça va? Et je suis accompagné de mon fidèle troublion Gabriel.
Bonjour.
Fabienne, alors comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Très bien. Eh bien, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que la ferme de Guec L'Étang?
Alors, le Guec de L'Étang, c'est une ferme familiale composée de deux associés, François et Nicolas Fortin,
D'accord.
et trois salariés, dont moi, qui travaille à mi-temps sur le volet vente directe.
D'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, la ferme?
La ferme existe depuis très longtemps, puisque c'était mon beau-père avant
D'accord.
qui avait des vaches. François et Nicolas se sont installés il y a plus de 30 ans maintenant.
D'accord.
Et donc, c'est une ferme de polyculture-élevage,
mm-hmm.
où nous avons un élevage de porcs bio en plein air et un élevage
okay.
de vaches mm-hmm. charolaises.
Et justement, donc là, effectivement, vous dites polyculture. Ça a toujours été une ferme de polyculture ou...
Oui, oui, ça a toujours été une ferme de polyculture-élevage, parce que ça permet une belle complémentarité entre les cultures, l'élevage. On est dans un territoire aussi où les terrains, il y a beaucoup de terrains en herbe,
D'accord.
en pâturage, mmh. des fonds de vallée notamment. Et donc, puis en termes d'équilibre sur la ferme, c'est ce qui est plus intéressant. Et on a un certain nombre de terres qui ne sont pas propices à la culture de céréales.
D'accord.
D'accord.
Et actuellement, justement, donc là, vous êtes situé où?
Alors oui, je n'ai pas précisé, nous sommes à l'appui.
L'appui,
l'appui. D'accord. D'accord.
Oui, donc proche de Chevigny. C'est pour ça que vous êtes là avec nous. et donc, ça semble être une histoire de famille. Ça a été facile de reprendre ou ça a été une volonté de reprendre la ferme?
Oui, oui, oui. Mon beau-père était agriculteur. Sa femme travaillait mmh. sur la ferme. Il a eu un fils qui s'est installé à côté de lui dans un premier temps et a développé un élevage de porcs.
D'accord.
Et quand mon beau-père a pris sa retraite, le deuxième de ses fils a pris sa place et a continué l'élevage de vaches charolaises.
D'accord. Et vous avez combien d'hectares de terre? Parce que je pense que ça doit se compter en hectares. Hein,
oui, alors on a aujourd'hui 180 hectares de terre, dont plus de 100 hectares en herbe.
Ah oui.
Et c'est nous énorme. Faisons un petit peu de céréales et un petit peu de cultures fourragères, du maïs, du sorgho, pour nourrir les bêtes également. On
D'accord.
essaye au maximum de nourrir nos animaux avec les productions de la ferme.
D'accord.
Et donc justement, là, au niveau de la production de la ferme, enfin, la partie céréales, c'est vraiment que pour les animaux ou vous leur vendez aussi peut-être à d'autres agriculteurs ou même à des particuliers?
Alors, comme on a des vaches et des porcs, et les porcs se nourrissent essentiellement de céréales, toutes nos céréales servent à nourrir les animaux. Et nous sommes même parfois pas totalement autosuffisants, donc
D'accord.
il nous arrive d'acheter des céréales à des collègues.
Et là, donc vous dites que vous semblez avoir beaucoup de terrain. C'est un choix d'avoir couper les différentes cultures ou pour pas être justement peut-être remplacé pour être autosuffisant ou c'était peut-être plus intéressant d'avoir quand même différentes cultures et quitte à devoir acheter de temps en temps des compléments?
Alors d'une part, l'élevage de vaches,
mmh.
Les vaches mmh. sont nourries essentiellement à l'herbe. Donc
D'accord.
on a besoin de beaucoup de terrain où on les fait pâturer et mmh. on ramasse aussi le foin. On fait sécher
D'accord.
et on le ramasse pour avoir du fourrage pour l'hiver. On nourrit Alors, les vaches, on leur donne aussi un petit peu de céréales. Donc, on a besoin de produire des céréales. Et en alimentation également, on fait un petit peu de maïs pour les nourrir aussi, soit en ensilage. Et on fait aussi un petit peu de maïs grain, plus pour les, pour les mélanges pour les porcs.
Et au niveau justement de votre élevage, donc que ce soit sur les vaches et sur les porcs, ça, vous allez après donc les vendre directement des particuliers ou vous êtes plutôt plutôt à des commerçants
Alors, on a deux systèmes de commercialisation.
D'accord.
On a une partie de notre production, la majeure partie de notre production, qui part dans circuit long par le biais de deux coopératives d'agriculteurs qui vendent les carcasses de nos animaux à des transformateurs, charcutiers, magasins. Et on a une partie de notre production que l'on vend en direct à la ferme sous forme de colis.
Ok.
D'accord. Et donc, oui, donc là, on peut venir directement prendre des colis. C'est proposé sur quelle forme ? C'est sur commande ?
C'est sur commande. Je fais une vente de viande de porc tous les mois.
D'accord.
Et
ah.
une vente de viande de vache tous les deux mois. Et je fais 3 à 4 fois par an du veau.
D'accord.
Toujours en bio, puisque l'intégralité de notre ferme est en bio.
D'accord.
Ah, intéressant.
Et vous avez plusieurs espèces de vaches que vous élevez dans votre élevage ?
Alors, on a essentiellement des vaches charolaises.
Okay.
Et depuis quelques années, nous avons un taureau Angus, qui est une race plutôt du nord de l'Europe, qui nous permet de faire des croisements charolais croisé Angus. L'intérêt de la race Angus, c'est que c'est une race qui s'élève très bien uniquement à l'herbe.
D'accord.
Et
okay.
la viande est mature plus tôt. Et notre volonté, c'est de faire du bœuf.
La
qualité de viande est très appréciée actuellement.
Okay.
Mais l'idée, c'est de rester sur des vaches charolaises et on ne met pas à la reproduction les animaux qui sont déjà croisés.
D'accord.
Donc oui, il y a d'un côté la partie, on va dire, animaux croisés pour nous vendre une certaine spécificité, mais de l'autre, vous conservez quand même l'idée d'avoir de la charolaise. Et justement... pourquoi cette volonté de garder la charolaise et pas de faire que, par exemple, que du croisé si c'est, on va dire, plus vendeur, même si j'aime pas trop le terme, mais
Parce que notre élevage de base, c'est de l'élevage charolais. En France, on aime bien les races pas trop mélangées.
D'accord.
Donc nous, c'est un petit peu une expérimentation et c'est une sorte de diversification de notre gamme. Mais après, si on croise des croisés avec de l'Angus, on aura des proportions un petit peu différentes. L'idée, c'est qu'on garde des vaches charolaises et on les fait reproduire soit avec des taureaux charolais, soit avec le taureau Angus.
Et en termes de proposition commerciale, vous proposez que de la viande ou vous faites aussi du lait, du fromage
On a des vaches charolaises qui sont uniquement une race à viande.
C'est une race à viande, d'accord.
On
ne
propose
que de la viande.
Que de la viande. Voilà. Okay. Donc de la viande fraîche et on a aussi une petite gamme de charcuterie de porc en bocal.
D'accord.
Pâté, rillettes, mousse de foie.
Ah, c'est bon pour moi ça. J'espère que je pourrai venir en prendre beaucoup.
Ah pareil là, ça me donne faim.
C'est ça. Et actuellement, on note d'année en année qu'il y a de plus en plus de difficultés sur les élevages. Donc pour moi, je trouve que les éleveurs ne sont pas aidés par l'État. Donc là, je parle pas à titre personnel, mais par rapport à ma famille. Est-ce que pour vous c'est le même ressenti ? Est-ce que vous avez l'impression que ça commence à aller mieux ou ça va comme toujours de mal en pis ?
Alors il y a des aides dans le monde agricole. Quand on a, par exemple, des vaches, on a des aides de l'Europe pour conduire l'élevage. Après, la question aujourd'hui, c'est comment on arrive à avoir des fermes qui permettent de vendre leurs produits à des taux rémunérateurs, c'est-à-dire qui permettent de rémunérer suffisamment les agriculteurs et les salariés quand il y en a. La question aussi, enfin nous on travaille depuis un certain nombre d'années sur l'augmentation de l'autonomie sur la ferme.
D'accord.
C'est-à-dire de produire un maximum nos produits pour nourrir les animaux, pour avoir le moins possible à en acheter. Donc ça permet de limiter nos coûts d'achat, tout comme on a limité les investissements. Alors quand les garçons se sont installés, ils ont fait des lourds investissements, mais on essaye de ne pas se suréquiper, on garde du matériel assez longtemps, on travaille aussi, on a du matériel qu'on a en commun avec des collègues en proximité, qui permet de limiter les investissements et ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse vivre de notre travail. Et ça se réfléchit et ça se travaille.
Oui, c'est vraiment que des réflexions sur du long terme. C'est-à-dire que le moindre achat, c'est quelle est la rentabilité derrière? Est-ce que ça va vraiment être intéressant? Et justement, dans ce cadre-là, j'adore le fait que vous faites du bio. Mais justement, est-ce que c'est pas plus rémunérateur de ne pas faire du bio? Et justement, qu'est-ce qui pousse le choix de dire non, en fait, on va faire du bio, on va accepter de faire du bio malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, s'il y en a? Parce que ça se trouve, je me fourvoie avec mes propres croyances. Et,
Alors, il y a plusieurs choses. Pendant un certain temps, c'était plus rémunérateur de travailler en bio et de commercialiser en bio. Après, ça varie selon les moments. Mais il y a une partie rémunérateur, effectivement, et une partie aussi de comment on travaille et quelle incidence de notre travail sur nous, sur notre environnement. Et c'est un cheminement qui a eu lieu maintenant il y a plus de 15 ans pour nous sur la ferme. Il y a 20 ans, quand les garçons se sont installés, ils pensaient ne jamais pouvoir travailler en bio parce qu'ils ne savaient pas faire, parce qu'ils trouvaient que c'était compliqué. Et puis à l'époque, c'était peut-être pas très rémunérateur. Ouais. Mais de fil en aiguille, aussi en étant interpellé sur les pratiques que l'on avait, quand on met des produits chimiques sur les cultures, qu'est-ce que ça a comme effet sur nos produits, qu'est-ce que ça a comme effet sur notre environnement
sur
nous et sur l'ensemble de la population. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à tout ça et on est allé se former, on a pris le temps de la réflexion, on est allé voir des gens qui étaient en bio pour voir comment ils travaillaient. Alors autant sur certaines production, ça n'a pas changé grand-chose parce que nos vaches, avant, elles étaient déjà dans un système avec beaucoup de pâturage, avec beaucoup de foin de la maison, donc ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui a beaucoup changé, c'est la culture des céréales, où là, il a fallu changer les pratiques, apprendre, se rééquiper aussi de manière différente. Mais c'est un choix qu'on n'a jamais regretté et en plus, qui nous a permis de mieux gagner notre vie.
Ça c'est intéressant à savoir.
Et on a même réduit, le nombre d'animaux tout en gagnant mieux notre vie.
D'accord.
Et ce qui a permis aussi d'embaucher.
Ça c'est bien.
En même temps, on a fait de la vente directe et ça a permis de générer de l'emploi.
Le fait d'avoir fait toutes ces modifications a entraîné petit à petit. Une augmentation entre guillemets de ce que vous touchez, de vos revenus. Est-ce que justement le fait de devoir se former, est-ce que c'est plus facile maintenant ou est-ce que c'est vous pouvez plus facilement aider d'autres fermiers qui voudraient se former justement pour aller vers du bio comparé à avant? Parce que il y a 15 ans d'arrière, comment vous faisiez pour justement avoir toutes ces informations sur le côté la pratique du bio ou comment améliorer votre façon de faire?
Alors l'agriculture, comme dans toutes les professions, mmh. c'est très important de continuer à se former tout au long de la vie parce que le contexte évolue, les techniques évoluent et donc on a différents lieux de formation et notamment le réseau des CIVAM donc qui coordonne l'opération de ferme en ferme, mais qui est un lieu où des groupes d'agriculteurs se retrouvent et échangent ensemble sur des problématiques mmh. qu'ils croisent sur leur ferme et ils... Alors, il y a des intervenants, mais il y a mmh. aussi une grosse part de, d'échanges mmh. entre pairs, entre personnes voilà, qui ont expérimenté des techniques, des manières de faire sur leur ferme, et mmh. on s'enrichit les uns les autres de ces pratiques. Mmh. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de fait sur la réduction des intrants, c'est-à-dire les produits D'accord. chimiques ou autres qui viennent de l'extérieur, mmh. D'accord. mais aussi sur comment on conduit l'élevage mmh. Et comment on commercialise aussi. Donc c'est très important de croiser les regards, de croiser les expériences, d'aller voir ce que font d'autres et de participer à des formations techniques.
Mais du coup, vous avez des employés, des salariés qui travaillent pour vous, c'est ça ?
Avec nous.
Avec vous, oui. plutôt.
Alors, on a un salarié sur la partie production. Mm-hmm. Et Florence et moi, qui sommes les conjointes de François et Nicolas, on est salariés mm-hmm. à mi-temps sur la ferme.
D'accord. Du coup, j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous prenez les stagiaires, du coup ?
Ça, oui.
Très bon à entendre.
On en prend régulièrement. Après, mm-hmm. on est aussi un peu limité dans nos capacités d'accueil parce que ben, quand on prend un stagiaire, c'est un engagement. Donc, il faut pouvoir avoir du temps à consacrer avec eux, avoir des tâches à leur faire.
Et ça dépend aussi des saisons
aussi, et puis on fait en sorte de ne pas en avoir plusieurs en même temps parce que mm-hmm. voilà, la oui, ferme n'est pas suffisamment grande pour avoir de l'activité pour tout le monde.
D'accord.
Mais oui, parce que on en prend régulièrement parce que c'est aussi important de transmettre, de faire connaître. En plus, nous ayant un atelier porcin, ce qui est très très rare dans la région, on a parfois des gens qui viennent de loin pour avoir une pratique d'élevage de porc, parce que c'est pas très répandu sur notre département.
Je suis surpris, je savais pas que c'était
Moi aussi
si rare que ça. Je pensais qu'il y en a. C'est-à-dire qu'il y en a énormément, mais qu'il y en a un peu plus. Mais donc, bah, c'est bon à savoir, voilà, si vous voulez en apprendre plus, si vous avez besoin d'un stage, n'hésitez pas à les contacter.
Je crois que je vais contacter très vite.
Et justement, bah, donc, vous aviez abordé le sujet du CIVAM. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus ce qu'est le CIVAM ? Déjà, bah, peut-être démêler l'acronyme pour les personnes qui ne vont pas connaître justement ce qu'est le CIVAM.
Donc le CIVAM, c'est le Centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du monde rural. Mmh. Donc ça fonctionne avec des groupes localisés. Il y en a un sur le Châtel-Rodet, mmh. un sur le Mont-Morillonnais, un au seuil du Poitou. Et comme je le disais tout à l'heure, les agriculteurs se regroupent sur des thématiques pour améliorer leur technique ou leur vision globale de leur ferme, mais aussi leur ferme dans leur environnement. J'ai mangé une deuxième idée.
C'est une idée aussi de montrer peut-être le monde rural aussi, bah, aux autres populations, mais aux particuliers, aux autres personnes.
Oui, alors dans le type d'agriculture qu'on promeut, on est très intéressé au lien agriculture dans son environnement et dans le monde qui nous entoure. Donc la relation entre producteurs et consommateurs, mmh. citoyens, voisins, c'est quelque chose de très important. Et j'ai retrouvé mon idée. Un des principes qui sous-tend les actions du CIVAM, c'est d'avancer dans le sens de l'agriculture durable.
D'accord.
C'est le concept d'agriculture durable, c'est comme le développement durable, c'est regarder l'équilibre entre l'aspect social, économique et environnemental de notre exploitation.
D'accord.
Et donc, l'opération de ferme en ferme, qui est un week-end de visite de ferme sur le territoire, c'est vraiment ça, c'est faire visiter nos fermes et faire découvrir comment on essaye de développer nos pratiques pour aller dans le sens de l'agriculture durable.
Eh bien, c'est un sacré programme. Le CIVAM, ça va être... Est-ce que c'est juste ciblé sur le département de la Vienne ou... j'ai l'impression que c'est vraiment mis à l'échelle nationale, même si j'ai pas l'impression que actuellement tous les départements sont dedans, ou c'est en train de se développer petit à petit.
C'est tout à fait ça. Il y a une fédération nationale des CIVAM. D'accord. Et il existe des réseaux CIVAM dans un certain nombre de départements, pas tout à fait partout, mais après parfois il y a des organisations qui s'en rapprochent un petit peu. Mais voilà, il en existe dans la région pas mal.
Et justement, est-ce que le CIVAM va aussi vous donner un peu plus moi, je vais pas dire de pouvoir, mais quand même de pression politique pour justement vous faire entendre sur les difficultés que vous rencontrez ou les besoins que peut-être pourrait apporter l'État pour aider au développement?
Alors, le CIVAM est en réseau avec un certain nombre d'organisations qui sont dans une démarche, on va dire, d'agriculture paysanne, agriculture durable. Et au sein de ce réseau, du coup, y a un travail de défense, du métier d'agriculteur. Après, le CIVAM en tant que tel, dans son type d'agriculture qu'il promeut, a aussi sa place et est un interlocuteur des décideurs pour faire valoir l'évolution et le type d'agriculture qu'il est important de soutenir aujourd'hui.
D'accord, parfait. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Si nos auditeurs veulent vous contacter pour avoir justement votre viande ou votre charcuterie, ils doivent se rendre sur votre site internet ou si vous en avez un, ou comment on peut le faire? Comment on peut vous contacter?
Alors, on n'a pas de site internet, on a une page Facebook, Gaëc de l'Étang Fortin, et en tapant sur les moteurs de recherche, on trouve assez facilement nos propositions, parce qu'on est référencé sur certaines AMAP, j'en ai pas parlé, mais dans la vente directe, on travaille avec plusieurs AMAP de la Vienne, et sur un site aussi, une plateforme de diffusion de production bio qui s'appelle achetezalasource.com.
D'accord, okay. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et
merci.
Au plaisir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit sur ROC 103.7.